Je vous invite maintenant à écouter la lecture de trois textes de la Bible. Tout d'abord, dans le Lévitique, au chapitre 19, les versets 33 à 34. Ça a été écrit il y a environ 3000 ans. Je trouve que ça n'a pas tellement changé. Quand un émigré viendra s'installer chez toi, dans votre pays, vous ne l'exploiterez pas. Cet immigré installé chez vous, vous le traiterez comme un indigène, comme l'un de vous. Tu l'aimeras comme toi-même, car vous-même avez été des émigrés dans le pays d'Égypte. C'est moi le Seigneur votre Dieu. Puis, dans la Nouvelle Alliance, lecture que je vais commenter dans la méditation d'aujourd'hui, Évangile selon Jean, chapitre 19, verset 23 jusqu'au chapitre 20, verset 18. Lorsque les soldats eurent achevé de crucifier Jésus, ils prirent ses vêtements et en firent quatre parts, une pour chacun. Restait la tunique. Elle était sans couture, tissée d'une seule pièce depuis le haut. Les soldats se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, tirons plutôt au sort à qui elle ira, en sorte que soit accomplie l'écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ma tunique, ils l'ont tirée au sort. » C'est dans un psaume. Voilà donc ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait debout sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Voyant ainsi sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Il dit ensuite au disciple, « Voici ta mère. » Et depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après quoi, sachant que dès lors tout était achevé, pour que l'écriture soit accomplie jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là une cruche remplie de vinaigre. On fixa une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Dès qu'il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est achevé. » Et inclinant la tête, il remit l'esprit. Cependant, comme c'était le jour de la préparation du sabbat et de Pâques, les autorités juives, de crainte que les corps ne restent en croix durant le sabbat, ce sabbat était un jour particulièrement solennel, demandèrent à Pilate de leur faire briser les jambes et de les faire enlever. Les soldats vinrent donc, ils brisèrent les jambes du premier, puis du second, de ceux qui avaient été crucifiés avec lui. Arrivés à Jésus, ils constatèrent qu'il était déjà mort, et ne lui brisèrent pas les jambes. Un des soldats, d'un coup de lance, le frappa au côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu a rendu témoignage, et son témoignage est conforme à la vérité. Et d'ailleurs, celui-là sait qu'il dit ce qui est vrai, afin que vous aussi vous croyiez. En effet, tout cela est arrivé pour que s'accomplisse l'Écriture, pas un de ses os ne sera brisé. Il y a aussi un autre passage de l'Écriture qui dit « Ils verront celui qu'ils ont transpercé ». Après ces événements, Joseph d'Arimathée, qui était un disciple de Jésus, mais s'en cachait par crainte des autorités juives, demanda à Pilate l'autorisation d'enlever le corps de Jésus. Pilate acquiesça. Et Joseph vint enlever le corps. Nicodème vint aussi, lui qui naguère était allé trouver Jésus au cours de la nuit. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'entourèrent de bandelettes avec des aromates, suivant la manière juive d'ensevelir. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin. Dans ce jardin, un tombeau, tout neuf, où jamais personne n'avait été déposé. En raison de la fête juive, de la préparation, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Le premier jour de la semaine, c'est le dimanche donc, à l'aube, alors qu'il faisait encore sombre, Marie de Magdala se rend au tombeau et voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court, rejoint Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et leur dit « On a enlevé du tombeau le Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis. » Alors Pierre sortit, ainsi que l'autre disciple, et ils allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se penche et voit les bandelettes qui étaient posées là. Toutefois, il n'entra pas. Arrive à son tour Simon-Pierre, qui le suivait. Il entre dans le tombeau et considère les bandelettes posées là. et le linge qui avait recouvert la tête. Celui-ci n'avait pas été déposé avec les bandelettes, mais il était roulé à part, dans un autre endroit. C'est alors que l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier au tombeau, entra à son tour dans le tombeau, il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait se relever d'entre les morts, après quoi les disciples s'en retournèrent chez eux. Marie était restée dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se penche vers le tombeau, et elle voit deux anges vêtus de blanc assis à l'endroit même où Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. « Femme, lui dirent-ils, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en parlant, elle se retourne et voit Jésus qui se tenait là. Mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Mais elle, croyant qu'elle avait affaire au gardien du jardin, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni. » Ce qui signifie « maître ». Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pour toi, va trouver mes frères, dis-leur que je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. » Marie de Magdala vint donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur, et voilà ce qu'il m'a dit. » Je suppose que ce texte, vous allez l'entendre encore dans les semaines qui viennent. On ne s'en lasse pas. Troisième lecture, qui est une des lectures de ce jour, Épître aux Éphésiens, chapitre 5, versets 8 à 14. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Vivez en enfant de lumière, et le fruit de la lumière s'appelle bonté, justice, vérité. Discernez ce qui plaît au Seigneur. Ne vous associez pas aux œuvres stériles des ténèbres, démasquez-les plutôt. Ce que ces gens font en secret, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pourquoi l'on dit, éveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et sur toi le Christ resplendira. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds. Guide-nous par ta parole, aide-nous à la comprendre, tant de siècles après, et qu'elle éclaire chaque jour de nos existences. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 208, dont vous verrez que c'est un cantique de Martin Luther, puisque nous sommes toujours dans l'année Luther. Nous prions. Oui, Seigneur, dans l'adversité, dans la détresse, tu es présent pour nous aider. Nous donner le pain, le vin, la grâce, pour nous faire entrevoir ton royaume et nous aider à l'accomplir ici, sur la terre que tu nous as donnée. J'ai vu un ressuscité. Si, si, Ce n'est pas un blasphème, ce n'est pas une crise mystique. J'ai vu un ressuscité. Dans un film, non pas un acteur qui joue le rôle d'un ressuscité, bien sûr, ça c'est banal, mais d'un comédien qui s'appelle Peter Cushing, qui jouait dans le premier épisode tourné de La Guerre des Étoiles en 1977. Et l'an dernier, donc 22 ans après sa mort, on l'a vu dans un film qui s'appelle Rogue One, qui est un épisode un peu en marge de la série La Guerre des Étoiles. D'autres personnages de la saga sont revenus dans ces premiers, dans cet épisode, ça s'appelle un spin-off. Mais c'était des robots, c'était Darth Vader, et pas besoin de n'importe qui peut se mettre dans l'armure. Cushing, alors d'habitude on prend un acteur qui ressemble, et là non. On a reconstitué numériquement le visage de Peter Cushing avec les expressions faciales, et on a mis le tout, par ordinateur, sur le corps d'une doublure. Donc, Peter Cushing a joué dans un film 22 ans après sa mort. Comme c'est un comédien qui a joué 6 fois le baron Frankenstein, on peut dire qu'il était prédestiné. Pourquoi je vous parle de ça ? Ben pour vous dire que résurrection, ça peut recouvrir bien des réalités. Nous approchons de Pâques, je vais vous parler de la résurrection, qui est quand même la grande fête chrétienne, même si médiatiquement Noël l'a quelque peu dépassée. Je vous propose d'étudier cet événement extraordinaire, d'abord en étudiant en regardant qui étaient les premiers témoins, témoins du tombeau vide et témoins des premières apparitions de Jésus ressuscité, et après nous verrons ce que nous pouvons, peut-être, quelles réflexions nous pouvons en tirer. Sur les premiers témoins, nous avons, comme d'habitude, évidemment, quatre versions plus ou moins concordantes de l'événement, crucifixion et résurrection. Je vous ai lu la version du quatrième évangile attribuée à l'apôtre Jean, qui est la plus détaillée. Je résume en quelques mots ces versions. Selon Matthieu, assiste au supplice près de la croix Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Marie-Madeleine et l'autre Marie, donc la mère de Jacques et Joseph, on va y revenir, le troisième jour se rendent au tombeau, qu'elles trouvent vide. Un ange, puis Jésus, leur apparaissent et les envoient porter la nouvelle. Chez Marc, assiste au supplice Marie-Madeleine, elle est là les quatre fois. Marie, mère de Jacques le mineur et de José, donc c'est la même autre Marie, et Salomé, et plusieurs autres femmes. Les trois femmes nommées, donc Marie-Madeleine, l'autre Marie et Salomé, se rendent ensemble au tombeau le dimanche. Le tombeau est vide, la pierre roulée. Un ange leur apparaît, elles s'enfuient épouvantées, sans rien dire à personne. Normalement, ça s'arrêtait là. C'est ainsi dans les plus anciens manuscrits que nous ayons, mais on a rajouté quelques versets dans lesquels Jésus apparaît à Marie-Madeleine, qui va porter la nouvelle aux disciples. Ses disciples ne la croient pas, jusqu'à ce qu'il leur apparaisse finalement. Dans l'évangile selon Luc, assiste de loin, il précise, au supplice, Marie-Madeleine, Jeanne, Marie, mère de Jacques, c'est la même, et quelques anonymes. Elles viennent toutes au tombeau, deux anges leur apparaissent, elles courent porter la nouvelle aux disciples qui ne voient là que niaiserie de femme. Seul Pierre va quand même au tombeau pour vérifier s'il est bien vide, et nous dit le texte, Pierre est dans l'étonnement. Texte de Jean, je vous l'ai lu, sont présents au pied de la croix Marie, mère de Jésus, sa sœur, Marie, femme de Clopas, Marie-Madeleine, bien sûr, et cet anonyme disciple bien-aimé qui a fait couler beaucoup d'encre. Donc, c'est le seul homme cité, quoique homme, si, je pense que c'est un homme, mais disciple, ça pourrait désigner une femme. Marie-Madeleine se rend seule au tombeau, voit que la pierre a été roulée. Elle va avertir Pierre et le disciple bien-aimé qui accourt, voit, et il croit, dit le texte, et s'en va. Après leur départ, Jésus apparaît à Marie-Madeleine seule, d'où le dialogue que je vous ai lu. Quelques mots sur ces personnages, tous féminins, sauf par les 10 autres apôtres survivants, puisqu'évidemment Judas n'est plus là, ces 10 autres apôtres se cachent de peur des persécutions. La sœur de Marie, mère de Jésus. La Vierge Marie avait une sœur, Jésus avait une tante. Pourquoi pas ? J'avoue que je n'ai pas trop cherché dans les textes ou dans les apocryphes des informations sur elle. La mère des fils de Zébédée. Cette expression étrange désigne donc la mère de deux des apôtres, Jean, qui est l'auteur supposé du quatrième évangile, de trois épîtres et de l'Apocalypse, ce qui n'est quand même pas rien, et de Jacques, que l'on appelle le majeur, pour le distinguer d'un autre apôtre, Jacques le mineur, dont nous allons parler, qui est le fils de l'autre Marie. J'espère que vous suivez, parce qu'ils ont tous les mêmes prénoms, il y a deux, c'est un peu compliqué. Donc, en bonne mère juive, elle a suivi ses fils derrière Jésus depuis la Galilée. Marie, la femme de Clopas. On ne sait rien de ce couple. À moins que Clopas soit aussi Clophas, qui est un des deux voyageurs sur le chemin d'Emmaüs, à qui Jésus va apparaître peu après, le seul qui est nommé sur les deux voyageurs. Alors, si c'est Clopas, était-il bien accompagné de sa femme sur la route d'Emmaüs? Ce serait elle, l'autre voyageur, peut-être. Il y a une nommée Jeanne. Jeanne, on l'est citée ailleurs dans les évangiles, c'est l'épouse de Chouza, qui est un intendant de la maison du roi Hérode, enfin du tétrarque Hérode. Salomé, celle-là est bien connue quand même. C'est la belle-fille d'Hérode Antipas, qui a, disent les évangiles, aurait dansé lascivement, qui a inventé le striptease en quelque sorte, devant son beau-père pour obtenir la tête de Jean le Baptiste. Repentante, elle a rejoint Jésus. Vous remarquerez que ces femmes courageuses représentent tous les échelons de la société. Il reste trois Maries à voir. Alors Marie de Magdala, pas de souci. Il y a deux Maries encore à envisager, la mère de Jésus et la mère de Jacques, à moins qu'il s'agisse de la même. Je vous résume une théorie qui a été avancée par des archéologues sérieux. Marie, la mère de Jésus, après la mort de Joseph le charpentier, s'est remarié, selon la tradition, avec le frère du défunt, tradition juive à l'époque. Pourquoi? Et ce frère pouvait s'appeler Alphée. Et c'est donc avec Alphée que la Vierge Marie aurait eu les frères et sœurs de Jésus cités dans les évangiles. Et justement, parmi les frères de Jésus cités dans les évangiles, il y a les prénoms, il y a Jacques et Joseph, qui sont les prénoms de deux des apôtres, même trois, puis il y a l'autre Jacques le Majeur. Est-ce que Jacques, fils d'Alphée, fils de Marie, serait devenu c'est l'un des apôtres, mais ce serait aussi le demi-frère de Jésus. Donc, Jacques, le mineur, fils d'Alphée, apôtre, est aussi Jacques, le frère du Seigneur, dont parle Luc dans le livre des Actes, et que Paul mentionne dans plusieurs épîtres. Et donc, ce serait aussi le disciple bien-aimé, celui qui est au pied de la croix, avec sa mère, Marie. Vous avez noté que Marie, mère de Jésus, n'est citée que dans le quatrième évangile, qui ne cite pas la mère de Jacques, et que la mère de Jacques est citée dans les trois premiers, qui ne cite pas la mère de Jésus. Donc, ça pourrait être la même. Et ce serait le disciple bien-aimé. Quoi de plus logique, d'ailleurs, que Jésus, mourant sur la croix, j'ai lu la phrase qui a été quand même assez commentée, « Mère, voici ton fils, et toi, voici ta mère. » Ben oui, si c'est l'aîné de ses petits frères, il devient le fils aîné, et donc il lui confie sa mère. Cette petite enquête policière, qui était là, qui a vu quoi, peut paraître déplacée, mais je crois que ça ne l'est pas entièrement. Dans une réflexion sur la résurrection, je vais essayer de vous dire pourquoi. Alors la résurrection, on est toujours gêné face aux miracles de la Bible, même si l'on est croyant, surtout si l'on est croyant. Si Dieu a créé le monde et les lois naturelles, pourquoi viole-t-il les lois naturelles qu'il a créées? Alors, il y a eu les guérisons miraculeuses. Pourquoi pas? Jésus peut avoir été un thaumaturge, un guérisseur. La postérité a un peu embelli ses guérisons, de là à ressusciter soi-même. On a proposé des explications rationnelles. Dès les évangiles, les grands prêtres, entre guillemets, craignent que les disciples viennent voler la dépouille pour faire croire que Jésus est ressuscité. C'est peu vraisemblable parce que, d'abord, les disciples se cachent tous, comme je vous l'ai dit, et parce qu'en plus, selon les évangiles, il y a des gardes autour du tombeau. Je vous cite aussi une explication rocambolesque qui a la faveur de certains milieux musulmans et maçonniques. On a crucifié quelqu'un d'autre à la place de Jésus. On a proposé Judas, Barabbas, Thomas. Thomas, parce que Thomas, son autre nom, Didyme, signifie jumeau. Les soldats romains se seraient-ils laissés avoir? Et en plus, le tombeau ne serait pas vide. Ces explications rationnelles ne me satisfont pas. D'ailleurs, elles sont en général sans grand intérêt. Ce qui compte, c'est le sens du récit. Ici, c'est la victoire sur la mort. C'est le fait que le message de Jésus vit toujours. Pourquoi chercher parmi les morts ce qui est parmi les vivants? Que s'est-il passé dans le tombeau la nuit du samedi au dimanche? J'en sais rien. Et donc, je ne pourrais pas vous le dire. Il s'est pourtant passé quelque chose. Parce que le vendredi soir, Jésus crucifié, c'est l'échec total. La fin de l'aventure. Le maître est mort, les disciples sont dispersés. Mais le dimanche matin, de la rencontre entre Jésus, sorti du tombeau, semble-t-il, et Marie de Magdala, est né un mouvement qui a bouleversé l'histoire du monde, qui fait que nous sommes réunis ici, 2000 ans plus tard. Cette histoire est donc, entre guillemets, vraie en raison de ses conséquences, même si elle n'est pas historiquement exacte. Imaginons d'autres développements après la résurrection. Mettons-nous modestement à la place de Jésus, ressuscité. Il aurait pu se précipiter au temple de Jérusalem, face à Caïphe, face à Pilate, proclamer la puissance de Dieu qui l'a fait revenir du monde des morts. Vous allez vous me tuer, me voilà. Quel triomphe! Ce serait dans tous les livres d'histoire. Magnifique. L'humanité entière convertie en un instant. Parce que si c'est un fait historique, il n'est plus question de le croire ou de ne pas croire, on est converti. Et où serait la liberté, justement, du croyant? Liberté de croire ou de ne pas croire. Nous sommes des protestants libéraux, nous sommes attachés à cette liberté et à d'autres d'ailleurs. Jésus ressuscité ne porte pas atteinte à notre liberté. Il révèle discrètement à son entourage proche qu'il est revenu. Sa mère, son frère, des amis, Pierre, Marie-Madeleine. Certains n'ont même que la vision du tombeau vide dans un premier temps. Nous sommes libres de croire ou pas à ce qu'il nous raconte. Et Jésus est apparu d'abord à des femmes, lesquelles, en raison du statut social qui est le leur à l'époque, ne sont même pas crues par les hommes, ces hommes qui eux se cachaient. Je vous rappelle que Pierre a renié 3 fois le Seigneur. Je vois là un parallèle avec ce qu'on appelle le mystère de l'incarnation, l'incarnation dans l'humilité. Jésus naît dans un milieu modeste, un trou perdu de l'Empire romain, et ressuscite discrètement auprès de femmes, de son entourage. Ce rôle primordial des femmes dans la révélation a été sérieusement occulté par l'Église. Alors dans les Bibles catholiques, dans les chapitres et les intertitres, elles sont appelées les saintes femmes, pour compenser sans doute. On les appelle saintes, elles veulent en plus en tirer toute la gloire. Ceci est un aparté féministe. Jésus ne s'impose pas comme ressuscité. Prenait-il même une autre forme humaine? La question s'est posée, peut se poser. Paul, lorsqu'il relate sa propre conversion, dit que Jésus lui est apparu comme aux autres, les autres dont il a dressé la liste. Il n'a jamais dit que c'était en chair et en os. Vous avez noté que Marie-Madeleine ne reconnaît tout d'abord pas Jésus. Elle le prend pour le jardinier qui aurait emporté la dépouille. De même, les 2 pèlerins d'Emmaüs ne reconnaissent pas Jésus tout de suite. Il faudra qu'ils rompent le pain à l'auberge. Les 7 disciples en train de pêcher au bord de la mer de Tibériade, chapitre 21 de l'Évangile selon Jean, ne le reconnaissent pas non plus lorsqu'il passe. Il faudra une pêche miraculeuse pour leur ouvrir les yeux et pour que Jacques, son frère, le disciple bien-aimé, si c'est bien lui, reconnaisse Jésus. Il faut faire un acte positif envers Jésus, le reconnaître. Cela ne s'impose pas de prime abord. Thomas sera le seul privilégié, je ne sais pas privilégié, à qui Jésus apparaîtra tel qu'il était de son vivant, mais avec ses plaies en plus, pour que celui-ci croit après avoir vu. Je voudrais revenir à Marie-Madeleine, qui a eu, selon Jean ou Jacques, donc, ce premier échange verbal détaillé avec le ressuscité que je vous ai lu. Enfin, détaillé, il y a un échange de 3 phrases. Elle ne le reconnaît pas. Puis il l'appelle par son nom, Marie. Elle se retourna et lui dit « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Ce rôle essentiel et privilégié de Marie-Madeleine pourrait conforter certains ragots sur ses rapports avec Jésus, ragots qui courent encore aujourd'hui. Je me demandais pourquoi, dans un article que j'avais écrit dans le journal de l'Amitié, la tradition avait transformé Marie de Magdala en pécheresse, prostituée. Il n'y a rien dans la Bible dans ce sens. Sans doute l'Église, dans sa peur de la sexualité et sa misogynie féroce, a voulu dissiper ses ragots. Il est impossible que Jésus soit en couple avec Marie-Madeleine puisque c'est une prostituée. Pour tenter de conclure, c'est quand Jésus appelle Marie de Magdala par son nom, à ce moment précis, un dimanche d'avril de l'an 30, devant le tombeau de Joseph d'Arimathie, alors qu'elle reconnaît le maître, c'est un peu là que naît le christianisme. C'est la première manifestation de foi en la résurrection. Manifestation libre et non provoquée d'autorité. Jésus a appelé Marie par son nom. Il a partagé le pain à Emmaüs. Il a nourri les pêcheurs malchanceux de Tibériade. Il a appelé Paul par son nom, Saül, Saül qui le persécutait. Et là seulement, ils l'ont reconnu. Marie-Madeleine serait en quelque sorte la première chrétienne, le mot n'existe pas encore au moment où nous nous situons. C'est une femme obscure, insultée, diffamée par la tradition. Nous avons la grâce, je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est bien, mais il faut faire un petit geste. Non pas respecter la loi et les œuvres, je vous rassure, mais une démarche simple. Reconnaître derrière le jardinier du cimetière, derrière le randonneur d'Emmaüs, derrière le passant qui demande si la pêche est bonne, reconnaître la présence de Jésus qui nous appelle. Nous aussi, il nous appelle par nos noms. Nous ne l'avons pas entendu, mais c'est parce qu'il nous a appelés ici, ce dimanche, que nous sommes là, réunis, autour de la parole. Reconnaissons-le. Rabboni. Amen.